Bienvenue. Vous écoutez le second épisode de notre podcast « Permis d'évaluer ». Pour lancer nos réflexions sur l'évaluation et l'expérimentation en architecture, nous avons souhaité rencontrer et écouter Jean-Michel Léger.
Jean-Michel Léger est sociologue, chercheur associé à l'IPROS, laboratoire de l'École d'architecture de Paris-Belleville, dont il a été l'un des membres fondateurs en 1986. Il a mené sa pratique de l'observation de l'architecture habitée dans la continuité de son maître à penser, Henri Raymond. Avec plusieurs dizaines d'évaluations socio-architecturales réalisées sur une période de plus de 30 ans, Jean-Michel Léger a été un des chercheurs français les plus actifs dans l'évaluation de l'architecture par l'usage. Ses travaux dans ce domaine ont donné lieu à plusieurs ouvrages, dont « Dernier domicile connu », publié aux éditions Créafis en 1990, Yves Lyon, Logement avec architecte, toujours aux éditions Créafis en 2006, et un livre intitulé Usage aux éditions La Villette en 2011. Dernier domicile connu est un ouvrage publié il y a 30 ans, qui proposait déjà une synthèse et un bilan des évaluations effectuées sur 300 opérations de logement collectif. Cet ouvrage est souvent cité et présent en plusieurs exemplaires dans les bibliothèques des écoles d'architecture. Il est référencé dans de nombreuses bibliographies d'enseignement. Nous avons le plaisir d'apprendre qu'une suite devrait paraître à la fin de l'année 2021 chez Créafis.
Dans le cadre de cet entretien, Jean-Michel Léger revient sur l'histoire de l'évaluation socio-architecturale depuis les années 1970, histoire à laquelle il a largement participé à travers de nombreuses enquêtes. Il nous livre sa définition et sa vision de l'évaluation aujourd'hui, mais aussi les grands chantiers de demain.
Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation qui me fait très plaisir parce que j'ai consacré le gros de ma carrière à ces questions-là et je suis resté frustré de ne pas avoir tout publié et surtout frustré, ça je viens de tout à l'heure, sur cette relative, enfin une utilité de tous ces travaux, je ne parle pas seulement des miens évidemment, mais de cette évaluation là qu'on peut appeler socio-architecturale. Donc, dans une efficacité, en tout cas, avoir des sérieux doutes sur l'efficacité du feedback. Mais justement, j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi j'ai ce sentiment-là.
Dans le premier extrait qui va suivre, Jean-Michel Léger revient sur son parcours et sur les figures, les pionniers de la recherche socio-architecturale croisés dans les années 1970. Il rappelle les recherches dans ce domaine, commandées par le Plan Construction, puis le PUCA. Et enfin, il nous livre sa définition de l'évaluation et sa posture en tant qu'évaluateur. L'évaluation est pour lui un regard critique, éclairé, appuyé par des enquêtes. L'évaluation est donc un jugement qui doit amener à des recommandations.
J'ai approché Henri Raymond, qui a été un des premiers, un des pionniers, si on compte qu'il y a eu d'abord Chambard-Delhaube, après il y a eu Philippe Boudon... Mais vraiment, on peut dire que c'est le troisième pionnier de ce rapport entre architecture et usage, même si à l'époque, on ne parlait même pas encore vraiment du mot usage. Et ses premiers travaux, donc après les pavillonnaires qui datent de 1966, il y a eu une première recherche faite par donc Henri Raymond et Nicolas Mont et autres sur des... qu'on peut être déjà la base... Les fondements d'une évaluation socio-architecturale, non plus, qui n'était pas l'expression, qui était une recherche sur la relation entre intérieur et extérieur, qui date de 1972. Et d'ailleurs, donc, heureusement, Raymond a repris les résultats dans sa thèse d'État, qui s'appelait L'architecture des aventures spatiales de la raison, qui était publiée en 1984. Et un de ses fidèles élèves, et qui est devenu aussi un ami, qui était aussi un de mes amis, Jean-Pierre Frey, que vous connaissez, a republié ce travail, qui était publié, donc par parenthèse, il y a 2 ans, je crois bien, et malheureusement, Raymond est mort juste avant, donc il n'a pas eu le bonheur de voir ce travail qui avait été mal publié par le Centre Pompidou, une petite collection un peu marginale, ça a été vite épuisé, etc. Donc il n'y a jamais eu d'audience de ce travail-là. Donc c'était un peu la suite de ça, en étant très tôt dans le laboratoire d'Henri Raymond, qui a pris plusieurs noms avant d'intégrer l'école d'architecture de Paris-Belleville et s'appelle IPROS, le laboratoire qui est aussi, et écoles qui sont aussi les vôtres. Mais il y a donc eu tout ce travail fait par Raymond, et moi ça m'a intéressé. Et par exemple, en 1978-80, j'avais travaillé pour l'IAURIF à une recherche qui déjà aussi, enfin, qui était la suite un peu de travaux de Raymond, et puis qui a été aussi le socle d'évaluation d'une vingtaine d'opérations de logements qui étaient collectives dans toute la France. Et ça a donné, je dirais, les sorts, et ça m'a donné envie de continuer. J'ai été approché par par la direction de la construction, qui m'a confié une série d'évaluations qui étaient assez légères, il faut le dire, pour une opération de promotion de l'architecture qui s'appelait Palmarès national de l'habitat. Et c'est ça qui a enrichi mon corpus. Et puis, en 1990, j'ai publié l'ouvrage Dernier domicile connu, qui faisait donc le bilan de ce que moi j'avais fait, mais aussi de ce que d'autres avaient fait. Donc, avec ce mouvement d'évaluation qui date, on pourrait dire, du début du plan construction, qui est fondé donc en 1971, donc il y a bientôt 50 ans, qui a changé de nom, c'est après 10 ans, enfin en 88, qui s'appelait plan construction architecture, et puis en 98, qui a fusionné avec ce qu'on appelait alors le plan urbain, donc il y avait d'un côté l'urbain, de l'autre côté l'architecture, et qui s'appelle donc depuis 98, PUCA, plan urbanisme construction architecture. Mais les missions du PUCA sont les mêmes à peu près que celles du plan construction d'origine, avec une évolution quand même du côté de, enfin, beaucoup de problématiques très différentes sur l'habitat intermédiaire, évidemment sur les performances énergétiques qui ont toujours été un peu au cœur du PUCA, mais enfin, 70, même si après le premier choc pétrolier, on a commencé à s'en occuper, c'était d'ailleurs la pleine époque du Giscard. Donc les performances énergétiques, mais il y a aussi toutes les problématiques des intermédiaires avec des programmes comme Villa Urbaine Durable, avec beaucoup d'évaluations, d'exploitation et d'évaluations lancées dans ce domaine de l'habitat intermédiaire, mais aussi les questions du vieillissement, d'évolution des familles. Donc en fait, le PUCA est devenu, a beaucoup élargi ses missions, ses problématiques, et aussi ses évaluations, parce que autant à l'origine, l'évaluation était le deuxième volet de l'expérimentation dans ce qu'on appelle toujours les REX, les réalisations expérimentales, qui est donc un dispositif qui a bientôt 50 ans et qui est toujours maintenu. Mais l'évaluation, elle est beaucoup plus large, c'est-à-dire que l'évaluation donc, que j'appelle socio architecturale, qui est celle que vous avez pratiquée aussi pour les immeubles à cour couverte, qui est donc l'évaluation de l'architecture par l'usage qu'en ont les habitants. Cette évaluation architecturale, elle est de fait très minoritaire dans le champ de l'évaluation. Alors, évidemment, moi je le regrette beaucoup parce que quand je vois justement le bilan, je suis en train de procéder non seulement à mon propre bilan, mais au bilan du PUCA en ce domaine de l'évaluation, eh bien, je me rends compte que l'évaluation socio-architecturale, elle est très, très minoritaire, parce que le PUCA travaillant aussi sur les jeux d'acteurs, le chantier, les méthodes de chantier, etc. De fait, quand il demande des évaluations, il ne demande pas des évaluations par l'usage, il demande des évaluations de ces processus-là. Donc, c'est un peu normal que l'évaluation soit minoritaire. Alors, c'est pour ça que le terme évaluation, c'est pas qu'il est pas ambigu, mais il est polysémique. Et que pour moi, évidemment, l'évaluation qui est celle que je pratique, c'est l'évaluation socio-architecturale, mais il y a plein d'autres manières d'évaluer. Même si l'évaluation, c'est un jugement, et je trouve, là aussi, en consultant beaucoup de ces évaluations qui ont été faites, je me rends compte que les évaluateurs sont de fait assez prudents, assez timides, aussi parce qu'ils ont la terreur de passer pour des évaluateurs normatifs, ce qui est une qualité ou un défaut, on peut dire, des sociologues, de ne pas vouloir s'engager. Alors, ça peut être aussi par prudence, ça peut être aussi par une conception de l'évaluation qui est une analyse, un examen, une observation, mais qui ne s'aventure pas du côté de la recommandation. Or, moi, j'estime que l'évaluation est un jugement, enfin, c'est étymologiquement, c'est la même chose, et que d'ailleurs, l'évaluation se rapproche de la critique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je trouve que l'évaluation, c'est une forme de critique éclairée, appuyée sur des enquêtes, un corpus et des enquêtes menées, si possible, de manière rigoureuse. Mais c'est un regard critique, c'est-à-dire qu'il doit arriver à juger si l'opération en question ou bien l'expérimentation en question de manière plus générale, il doit être validé pour une reconduction future ou doit être invalidé dans l'avenir.
Ensuite, Jean-Michel Léger nous explique pourquoi les évaluations spécifiquement socio-architecturales sont si peu nombreuses dans le champ de l'évaluation. Il revient sur les conditions de l'évaluation et sur une comparaison entre la France et les États-Unis. Il revient aussi sur le peu d'effet des évaluations dans la conception des plans de logement à partir de deux enquêtes qu'il a réalisées. Une enquête qui porte sur les opérations de logement d'Yves Lyon à Villejuif et à Champs-sur-Marne et une enquête sur la cité manifeste de Mulhouse.
Et ce que je voulais dire à propos de l'évaluation, c'est que, donc je l'ai dit, elle est polysémique. Ce que demande le PUCA, c'est des évaluations de tous ordres, pas seulement pour de socio-architectural. Et ça, pourquoi c'est dû à quelque chose d'important dont j'ai réalisé un petit peu tardivement justement l'importance, c'est que l'évaluation, aussi bien d'ailleurs la socio-architecturale que les autres, hein, celle des jeux d'acteurs, celle des performances énergétiques, etc., elle est autant due à l'offre que à la demande. C'est-à-dire que là, l'offre, c'est pas le PUCA, mais c'est l'offre de recherche, c'est l'offre des chercheurs. Et quand le PUCA demande, lors d'appels d'offres de recherche, demande l'offre des chercheurs, eh bien, on se rend compte que, de fait, les chercheurs capables de mener des évaluations socio-architecturales, eh bien, ils sont pas si nombreux que ça. C'est-à-dire qu'on les compte sur les doigts de la main. Et ça a toujours été un petit peu le cas. Peut-être un peu plus d'équipes de sociologues ou de psychologues à l'époque capables de mener ce genre d'enquête dans les années 70-80 parce que c'est encore la grande époque de l'engouement pour les sciences sociales qui se sont aussi emparés de l'objet logement et l'objet architecture. Mais aujourd'hui, les équipes sont peu nombreuses, ce qui fait que, par exemple, quand, en 2009 et 2011, le PUCA a la grande intelligence de lancer un programme qui s'appelle BATEX, avec donc deux sessions, de BATEX 1 et BATEX 2, qui, en plus, avait tout l'intérêt de ne plus s'intéresser seulement au logement, comme c'était le cas depuis 40 ans avant, où il n'y avait que le logement qui était évalué, mais jamais autre chose. La BATEX, qui veut dire bâtiment exemplaire, BATEX voulait s'intéresser à tous les types d'architecture, tous les types de bâtiments, donc les écoles, les hôpitaux, tout ce qu'on veut, les bureaux, enfin, tout ce qu'on veut. Et alors, quand on regarde les réponses à BATEX, eh bien, on se rend compte que l'évaluation socio-architecturale qui est chère, elle était minoritaire. C'est-à-dire que de fait, le PUCA peut toujours lancer un appel, mais s'il n'y a pas de répondant, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors évidemment, le PUCA aurait pu dire, écoutez, il n'y a que 5, sur ma proposition, il n'y a que 5 évaluations socio-architecturales, je m'occupe de celle-là. Mais non, parce que le PUCA, il a aussi le souci de nourrir les équipes de chercheurs. Enfin, tout ça, c'était aussi un système sociologiquement intéressant à étudier, mais où les chercheurs sont aussi des évaluateurs, sont aussi des membres de jury, sont aussi des experts. Donc, le PUCA, il y a un budget à dépenser, donc s'il n'y a que 5 évaluations socio-architecturales et puis 15 autres sont dans l'autre ordre, eh bien, effectivement, on va financer d'autres évaluations. Et le PUCA, lui aussi, il n'est pas non plus arc-bouté sur la seule évaluation socio-architecturale, donc il va estimer qu'il y a d'autres processus, et c'est le cas. Si on regarde le programme BATEX, il y a par exemple des écoles qui sont des bâtiments à énergie positive déjà, donc il y a plus de 10 ans, et le BATEX propose d'étudier les résultats de ses performances. Donc là, moi, je suis tout à fait convaincu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de bien considérer que dans le milieu de la recherche française, dans le milieu de l'évaluation française, eh bien, de fait, il y a peu d'équipes qui sont capables d'assurer ces évaluations architecturales. C'est des équipes qui sont rattachées aux écoles d'architecture. Et aussi, ce que je vais ajouter par rapport à cette offre par les chercheurs, c'est que cette offre, effectivement, elle est assez faible en France et elle est sans comparaison avec ce qui existe dans les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, qui ont fondé la Post-Occupancy Evaluation, qui est un outil très, très, très puissant, très bien financé, qui repose sur une solide assise académique avec des centres de formation, etc. Donc, beaucoup d'argent à l'américaine, qui a su s'aimer dans toute la culture anglo-saxonne. Donc, tous les pays du Commonwealth s'y sont passés, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc. Même aussi, d'ailleurs, les Pays-Bas ou l'Allemagne ou même Hong Kong. Donc, ça a s'aimé dans beaucoup de pays, mais c'est devenu une affaire académique, c'est-à-dire que c'est des enseignants qui enseignent ça. Donc, c'est des filières d'enseignement avec d'autres filières de recherche avec des évaluations. Mais ce qui me rassure, à supposer que ça soit rassuré pour voir que ça se passe pas mieux chez les voisins que chez nous, eh bien, c'est que d'après ce que j'ai compris, un jour en discutant avec une certaine Jacqueline Visser, qui a beaucoup travaillé avec le fondateur, donc, de la PAE américaine qui s'appelle Wolfgang Preiser, eh bien, cette Jacqueline Visser, qui travaille à Montréal, m'avait dit il y a une dizaine d'années que finalement, bon, aussi l'efficacité de la POE sur la production, donc le retour que ces évaluations peuvent avoir sur l'enseignement, la pratique architecturale ou la pratique des maîtres d'ouvrage, eh bien, le bilan était plutôt maigre, même si on ne peut pas l'évaluer, parce que moi, quand je disais que tout au début que j'étais un peu pessimiste sur le retour de l'évaluation, c'est pour dire pour ça aussi que je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine encore de revenir, de faire un bilan après le dernier mission connu, de faire encore un autre bilan sur ce que j'ai pu faire depuis 20 ans, si c'est pas très, très utile, à quoi ça sert-il? Mais de fait, on ne peut pas mesurer l'effet, c'est-à-dire que c'est impossible de savoir quel est l'effet de l'évaluation socio-architecturale sur la pratique des architectes. Les architectes, ils subissent une influence, ils lisent ou ils lisent pas, mais on ne sait pas ce qu'ils lisent, on ne sait pas ce qu'ils ne lisent pas. Les maîtres d'ouvrage, pareil. Alors, bien que le PUCAI a toujours organisé beaucoup de rencontres entre chercheurs et professionnels, justement, pour faire passer la recherche et que les architectes et les maîtres d'ouvrage se cultivent et les résultats échangent les chercheurs justement sur les bonnes pratiques, mais ça, on ne peut pas le vérifier. Alors, on peut le vérifier, évidemment, quand on regarde la production, mais c'est pareil, la production, quand on compare la production d'aujourd'hui avec celle d'il y a 20 ou 30 ans, évidemment, ça n'a rien à voir et ça n'aura rien à voir avec ce qui nous attend, puisque le jour où, à partir de l'été prochain, il va falloir que tous les immeubles de logement soient des immeubles BEPO, c'est-à-dire qu'ils doivent produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, c'est-à-dire qu'il va falloir, c'est une vraie révolution, et là, je ne sais pas comment les architectes vont pouvoir faire pour réussir ce challenge de faire ces bâtiments énergie positive. Mais même avant ça, il y a tellement de façon de changements avec depuis 2005 la loi sur l'accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite, le durcissement des réglementations thermiques qui datent pas donc. Actuellement, on est sur celle de 2012. Donc, celle de 2020 va être très dure, mais elles n'ont fait que durcir depuis 1974, depuis la belle époque giscardienne, et les chocs pétroliers, donc c'est de plus en plus dur. Donc, l'évolution du logement, entre l'évolution des techniques, l'évolution pressentie des usages, l'évolution des normes, etc., c'est-à-dire les architectes, ils sont pris, et les maîtres d'ouvrage aussi, mais par un nombre d'injonctions, de prescriptions énormes. Et tout ça se fait au nom de l'usage, mais plus ou moins, parce que de toute façon, il faut répondre à toutes les exigences. Et de fait, l'usage, c'en est une. Et c'est plutôt dire les maîtres d'ouvrage qui sont vigilants, qui vont dire, écoutez, là, mon cher monsieur, il faut quand même prévoir une cloison, etc. Mais il y a trop de prescriptions et l'usage n'est pas la première. Et là, ce qui est à craindre, c'est qu'avec donc cette généralité du BEPOS à partir de l'année prochaine, alors là, il faudra que les logements répondent à de telles exigences thermiques que évidemment que c'est enfin l'usage ça va être la surface la distribution qui va être évidemment extrêmement banale, et les surcoûts qui vont être engendrés par cette surenchère dans les performances, dans la demande de performance énergétique. Cette surenchère, ces surcoûts, ils vont pénaliser la surface des logements qui est déjà, qui sera tressée comme peau de chagrin, etc., etc. Donc c'est un beau chantier pour l'évaluation. Moi, j'ai travaillé sur deux opérations de Livlion, livre publié en 2006. Là, c'était vraiment la première. La REX, donc la réalisation expérimentale de la bande active à Béjus, ça, c'était vraiment un travail très, très, très approfondi. Après, il y a eu une autre opération qui était faite par Livlion à Champs-sur-Marne, qui était une évolution de la bande active, qui était très intéressant parce que, justement, dans un premier temps, Livlion a voulu proposer la bande activiste dans cet immeuble, et le maître d'ouvrage, qui était l'OPAC du Val-de-Marne, qui avait une sociologue dans ses rangs, l'OPAC a dit non, la bande activiste, ça ne peut pas marcher, parce que chez nous, à Villejuif, il peut y avoir une sous-occupation de logement, mais nous, on ne peut pas se mettre une sous-occupation de logement, et ça ne peut pas fonctionner. Donc cette sociologue avec laquelle j'étais en relation, qui avait lu le travail sur Villejuif, justement, qui avait lu, on peut dire que ça a été peut-être le seul cas d'une évaluation suivie d'un effet positif, même si je pense qu'elle-même elle avait compris que la bande active ça marchait pas très bien, donc il y aurait des problèmes de dysfonctionnement. En tout cas, mon évaluation a enfoncé le clou. Donc là, il y a eu une évolution importante puisque Yves Lyon, et puis avec son architecte d'opération qui s'appelle Isabelle Slabovitch, ont retravaillé et ils ont dessiné une cellule qui marche très très bien, avec une salle de bain qui est prise entre deux chambres, qui n'est pas du tout un dispositif inédit, la salle de bain prise entre deux chambres, mais avec un système de circularité, une troisième chambre qui en revanche est une chambre bain, donc qui peut être autonome pour le jeune adulte ou l'étudiant ou même l'adolescent, donc une cellule qui marche très très bien, des résultats très positifs, plus de grands appartements, etc. Donc, j'en ai fait l'éloge dans le livre. J'en ai fait l'éloge dans deux ou trois articles, en montrant ce plan, en disant ce plan est formidable, allez le voir, sachant sur Marne, mais Lyon n'a jamais pu le reproduire. Et effectivement, il y a que même l'architecte qui, lui, fait son évaluation, alors après, qui peut être conforté donc par le maître d'ouvrage et par le sociologue qui va dire, ben non, ça marche très bien. Eh bien, l'architecte, il n'a pas l'occasion dans sa commande de reconduire un plan qui marche bien. Et ça qui est aussi intéressant et impressionnant dans l'avancée de la culture architecturale et sociologique, c'est que on peut pas dire que chaque opération rebat les cartes, mais de fait, c'est pas qu'il n'aurait pas voulu refaire ce plan. Alors déjà, c'est parce que c'est des grandes trames de 7,20 m, c'est des grands logements, donc ça coûte cher, etc. Mais il n'a pas eu l'occasion, donc depuis... cet immeuble qui doit être terminé depuis, j'imagine, je sais pas, 2003, 2004, eh bien, Yvion n'a pas eu l'occasion de reconduire ce plan, et je pense qu'il aurait lui aussi voulu le faire, mais ça n'a pas pu se présenter. Donc, il y a une manière de... C'est ce que disent beaucoup d'architectes aussi, même je me souviens aussi Yvion le premier, qui disait... C'est pas possible que chaque fois on reparte de zéro, qu'il faille réinventer le logement à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu le sentiment qu'on a. Alors c'est aussi parce que dans la déontologie, les architectes n'ont pas le droit, entre guillemets, de se répéter. Mais c'est aussi parce que les conditions changent tout le temps, et elles changent d'autant plus que les nouveaux règlements, effectivement, même cette opération-là, avec le, je sais pas si, il n'était pas soumis, donc, à la loi PMR, qui date de 2005, puisque l'immeuble date, comme je l'ai dit, de 2 ans auparavant, donc conception même 7 ou 8 ans auparavant. Mais, quand on rajoute toutes les réglementations thermiques, PMR, etc., eh bien, je pense effectivement que ce plan-là devrait être refait, ou l'immeuble, en tout cas, ne peut plus être le même. Donc, c'est ça qui est aussi, je dirais, un peu décevant dans l'évaluation, c'est que de toute façon, même quand l'évaluateur veut être très positif en promouvant, donc en l'occurrence, une cellule qui était vraiment géniale, eh bien, ça ne marchait pas. Et alors, à l'inverse, je veux dire, justement, l'exemple très précis qui va faire le lien entre Villejuif et notre opération, Quand j'ai évalué la Cité Manifeste il y a quelques années, donc la Cité Manifeste de Mulhouse, il y a 5 séries différentes, donc 5 architectes différents, donc pour moi aussi 5 évaluations, avec un gros débat entre évaluateurs, architectes, maîtres d'ouvrage et tout ce qu'on veut, savoir s'il y a plus d'unité ou de diversité dans la Cité Manifeste. Bon, moi je considère qu'il y a plutôt davantage de diversité, mais bref, c'est une autre question. En tout cas, dans le hangar, parce que c'est évidemment un hangar, on imagine que Jean Nouvel ne peut faire que des hangars, donc dans le hangar habité de Jean Nouvel, qui évidemment est très grand volume, Jean Nouvel a supprimé, enfin quand je dis Jean Nouvel, c'est Jean Nouvel, l'architecte du projet, hein, Jean Nouvel a dû suivre ça très très loin, bon, on va dire AGN, donc architecte Jean Nouvel, on va dire le nom de l'agence, donc AGN a supprimé la salle de bain commune, comme à Villejuif, et a donc dessiner des chambres bains, c'est-à-dire des chambres avec soit une douche, soit une baignoire, et un lavabo évidemment. Et autant les chambres avec douche, qui sont plutôt des chambres d'enfants, effectivement ça marche très bien, autant les chambres avec baignoire, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est une baignoire qui est posée au milieu avec un rideau de douche, mais vous savez, crapoteux avec le truc, avec la tringle, etc., vraiment le truc en plastique, vraiment à fuir. En plus, c'est avec une baignoire qui est au milieu de la chambre. Donc, tous les problèmes que j'avais identifiés pour la chambre à Villejuif, c'est-à-dire que dans un couple, déjà, on a des horaires différents. Il y en a qui se lèvent tôt, un qui se lève tard, un qui se lève, etc. Et puis, il y a le sentiment de pudeur qui fait que même dans les couples mariés, et même dans les couples jeunes et athlétiques, si on peut dire, enfin, peut-être pas les couples athlétiques, on n'a pas forcément envie de se montrer nu devant l'autre. Donc, il y a un problème d'intimité dans l'usage des chambres à bain. Ben évidemment, je ne veux pas reprocher à AGN de ne pas avoir lu mon ouvrage sur Villejuif et de survivre en tout cas, et d'ignorer que la chambre à main, ça ne marche pas. Mais dans ces cas-là, finalement, on a envie de se dire, j'aurais dû être ferme, ou enfin, il faudrait bien pas seulement, parce que ton le livre est un livre, hein, évidemment, mais comment faire pour que on interdise par la réglementation la chambre bain, en tout cas la baignoire dans la chambre. La baignoire peut être dans une alcôve un peu plus loin. Enfin, d'ailleurs, évidemment, la salle de bain attenant à une chambre, c'est un luxe, on est tous bien d'accord. Il y a ça dans toutes les grandes maisons, tous les beaux appartements, on a une salle de bain qui attenant à une chambre. Mais quand vous avez un équipement de bain comme une baignoire qui s'impose dans la chambre, c'est pas possible. Donc ça, évidemment, là, j'aurais envie de dire maintenant, mais... De même que le PUCA veut interdire les cours couvertes, eh bien moi je dirais le PUCA, enfin le code de la construction plus exactement, le code de la construction devrait interdire ce genre de chambre bain.
Jean-Michel aborde aussi la question de l'expérimentation et des difficultés qu'il peut y avoir à sortir des plans conventionnels, aussi bien pour les maîtres d'ouvrage que pour les habitants.
Les maîtres d'ouvrage, ils ont des cahiers des charges épais comme ça, donc ils savent trop ce qu'ils veulent. Souvent même, ils sont trop prescriptifs. Moi j'avais étudié des cahiers des charges de maîtres d'ouvrage, je veux dire, ils sont plus royalistes que les sociologues. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est pas s'embêter, donc opposition jour-nuit, etc. Donc séjour d'abord, chambre après. Justement, parmi les évaluations des opérations faites par l'architecte suisse, donc de Bâle, j'ai pu montrer que de fait, les chambres vont pas être au fond du logement. On peut très bien avoir un couloir avec des chambres d'abord et puis le séjour après, comme le font beaucoup d'architectes du côté de Bâle. Donc, les habitants sont moins abrutis que les maîtres d'ouvrage. Quoi, qui eux, c'est par flemme aussi parce qu'ils se disent oui, il faut que ce soit pour le tout venant. Faut avoir de la rotation, donc on va pas s'embêter à des conceptions qui vont être un petit peu comme ça, un petit peu non académiques. Ils veulent effectivement plutôt de la facilité, et c'est juste, je dirais, de fait, à partir du moment où le marché est tendu, ce qui est par exemple le cas à Paris, c'est pas le cas à Mulhouse, hein, pour ça la Cité Manifeste, ça marche bien aussi, parce qu'on a un marché de logement social détendu, mais à partir du moment où c'est très tendu, on peut pas se permettre de donner le choix, et il n'y a pas de doute que à partir du moment où on sort des plans académiques, des plans classiques français, ce que Berlinguet, en son temps, avait appelé le type collectif contemporain. Mais dès qu'on sort de ce qui peut être plus conventionnel, il faut donner le choix à l'habitant. Et évidemment, la notion de choix, elle est tout à fait illusoire, parce que Ça veut dire quoi le choix quand vous devez vous loger, quand vous, votre budget est limité et quand, de toute façon, vous avez peur que si vous ne prenez pas cet appartement-là, celui que vous prendrez après, ça sera moins bien. Donc, la notion de choix, elle est assez limitée. Mais les expérimentations, en tout cas, elles peuvent se faire. Ça, c'est une des conclusions de l'évaluation d'un site manifeste. C'est qu'à partir du moment où, au moins au début, même après d'ailleurs, parce que le fait, le marché, je répète, étant détendu, même quand un locataire part, le bailleur, il peut donner le choix à d'autres habitants que si ça ne lui plaît pas dans le site manifeste, il peut aller voir ailleurs. Mais il faut donner le choix. C'est la moindre des libertés. On ne devrait plus être comme dans la crise du logement d'il y a 50 ans ou encore d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on devrait pouvoir donner le choix aux habitants de la configuration qui leur plaît. Et bon, non seulement le quartier, non seulement l'immeuble, mais aussi évidemment le plan du logement. Faute de quoi, l'expérimentation, évidemment, elle est risquée parce qu'on introduit une contrainte. C'est-à-dire qu'on oblige quelqu'un à habiter dans un espace qu'il ne veut pas. Et quand l'espace est trop ouvert, ce qui est le cas d'espace de cité manifeste, par exemple, évidemment, il y a des contraintes d'usage. Donc, c'est un manque de respect envers l'habitant et envers ses manières d'habiter que de lui proposer quelque chose et qu'il ne lui conviendra pas.
Enfin, Jean-Michel Léger évoque les possibles prochains chantiers de recherche du PUCA. Tout d'abord, la mise en place de la RT 2020 et l'obligation de construire des BEPOS, bâtiments à énergie positive, transformeront chaque immeuble en un terrain d'expérimentation. Le second chantier pourrait porter sur l'économie du logement, qui continue, très étrangement, à être la grande absente des évaluations.
Tout logement va être expérimental. Donc le PUCA, il n'a même plus besoin de lancer un programme expérimental, puisque tout va être expérimental. En revanche, évaluer tout ça, bonjour. Et là, j'espère que le PUCA va casser sa tirelire et va mettre sur la table des programmes d'évaluation sérieux et pour croiser enfin toutes les dimensions, parce que jusqu'à maintenant, on a d'un côté les performances énergétiques, on a d'un côté les performances acoustiques, on a l'usage. L'économique, on l'a jamais. C'est-à-dire que, en 50 ans, le PUCA n'a jamais lancé vraiment d'évaluation sur le coût. Alors, on a des données, bien sûr, il y a nos comparatifs, mais en plus, on connaît pas la vérité des chiffres parce que les maîtres d'ouvrage, ils cachent leurs comptes, etc. Donc, de fait, il n'y a jamais eu d'audit économique approfondi sur les opérations de logement. C'est quand même un comble, parce que pourquoi on fait tout ça? On ne sait pas ce que ça coûte. Évidemment, on répond, chaque opération singulière, ce qui n'est pas faux. Donc, chaque opération a ses propres coûts, entre le foncier, les modes constructifs qui varient, etc. Donc, même s'il y a des prix plafonds, par exemple, ou des prix de référence pour le logement social, eh bien, après, on voit bien qu'il y a des grosses différences. Justement, c'est quand même très intéressant d'étudier ça. Donc, il va falloir que le PUCA aussi, et ça, le PUCA en convient, parce que même sur l'évaluation qui nous a rapprochés, vous et moi, donc cette évaluation des immeubles à cour couverte, c'est très bien. Pour la première fois, le PUCA a lancé trois types d'évaluations, donc l'usage, les performances énergétiques, les performances thermiques, on pourrait dire aussi aérolique, parce qu'il s'agit de vérifier toutes les qualités de l'air, pas seulement la chaleur. Donc là, PUCA n'avait jamais fait ça, de cette triple approche, hein, c'est exceptionnel. Mais ce qui manque, eh bien, c'est le coût. C'est-à-dire, de fait, il n'y a pas de comparaison et on ne sait pas quel est le surcoût de ces opérations-là. Donc, comment peut-on penser que l'évaluation est destinée à être reconduite, à donner des recommandations, etc., si on ne sait pas ce que ça a coûté? On pourrait dire que même avant le reste, ça devrait être la première évaluation. Donc là, encore un chantier ouvert au PUCA, mais ce que j'ai toujours entendu dire du PUCA, c'est que, et ça revient à mon discours sur l'offre, c'est que de fait, il n'y a pas de chercheurs en économie du logement. C'est-à-dire, les économistes du logement, c'est des macroéconomistes, il y en a plein, il y en a de très très bons. Ils travaillent sur la macroéconomie, les grands phénomènes, justement le logement social, le coût du logement général, etc. Mais opération par opération, il n'y a personne. Parce que on m'a toujours dit, mais tous les économistes ne sont pas intéressés par étudier ce genre de questions. Donc, il va falloir aussi arriver à recruter, à débaucher des économistes pour qu'ils s'intéressent, qu'ils aillent mettre leur nez dans les comptes des maîtres d'ouvrage pour voir ce qu'ont coûté ces opérations-là.
Un grand merci à Jean-Michel Léger pour cet éclairage engagé. cet entretien nous a donné à voir les enjeux et les limites de l'évaluation socio-architecturale sur le temps long.